Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante.
Remue-ménage.
Onde Femmes. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Onde Femmes, Remue Ménage, Radio Zone 93.8 et comme tous les mercredis, 17h-18h30, eh bien nous sommes en direct dans nos studios de Ferney. Je ne sais pas si des fois dans la vie il vous arrive comme ça, coup sur coup, plein de coups durs et vous vous dites « il y a le mauvais œil qui me regarde » ou bien, je ne sais pas, les ondes sont le plus négatif du monde. Eh bien, je vous dirais qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai eu cette sensation, en tout cas en ce qui concerne tout ce que je voulais faire à propos remue-ménage d'aujourd'hui. Je me réjouissais beaucoup de rencontrer, pour vous faire partager aussi cette rencontre, Moufida Tatli. Moufida Tatli est la réalisatrice d'un film magnifique que l'on peut voir en ce moment au cinéma Rialto à Genève. Moufida Tatli, réalisatrice tunisienne, et qui a réalisé ce film splendide qui a pour titre « Les silences du palais ». Les silences du palais que, quant à moi, j'ai découvert au Festival du film du Sud de Fribourg. Et je me réjouissais beaucoup de la rencontrer, je l'avais ratée à Fribourg et je savais qu'elle serait à Genève. Quand j'arrive, je veux aller au rendez-vous, je commence par crever en cours de route en allant au rendez-vous. J'arrive avec un quart d'heure de retard, c'est jamais très rigolo quand quelqu'un vous attend. Et puis là, au moment de commencer à enregistrer ma rencontre avec Moufida Tatli, eh bien l'enregistreur ne veut pas fonctionner. On s'énerve, on essaye de se calmer, de faire de la magie. Et la Moufida joue un rôle incroyable. Elle est calme comme tout, elle prend les choses du bon côté. Mais ça va marcher, ne t'inquiète pas, etc., etc. Et puis finalement, l'enregistreur veut bien se mettre en marche. Et même s'il s'arrêtera encore à deux fois consécutives, eh bien, je crois avoir enregistré au moins une quarantaine de minutes de conversation sur les une heure que voulait bien me consacrer Moufida Tatli. Et quelle n'est pas ma surprise lorsque rentrant chez moi, j'écoute l'enregistrement et j'entends des horreurs. L'enregistreur n'a pas daigné enregistrer convenablement la voix qu'on lui confiait. On a des voix qui ne... Bref, il ne me reste que la moitié de ma rencontre avec Moufida Tatli qui est audible. Alors, chères auditrices, c'est des coups durs comme ça dans la vie de journalistes de radio locale avec des moyens petits comme les nôtres. Parce qu'effectivement, quand je suis allée amener réparer mon enregistreur, on m'a dit « Vous aviez qu'à avoir un enregistreur professionnel. Il ne faut pas vouloir faire du travail de professionnel avec du matériel qui n'en est pas. » Ça, c'est toujours une réponse très agréable à entendre, s'entendre dire quand vous travaillez pour une radio comme la nôtre, qui pourtant s'évertue de travailler le mieux qu'elle peut. Enfin, bref, ne nous étalons pas, ne pleurnichons pas. Ce qui est grave surtout, c'est que nous avons perdu la moitié de la rencontre avec Moufida Tatli. Alors j'hésite, je me demande si je vous la passe dans cet état glauque où sa voix et la mienne est fortement déformée. Je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire, je vous l'avoue. Alors avant de prendre une décision encore ultime, eh bien je vous confie à la belle voix d'une toute autre femme, d'un tout autre bord du monde. C'est Milva.
E so che non potrò fermarlo mai. perché l'ho dentro il cuore. Questo tango suona sempre e sempre io l'ascolterò, sempre ovunque andrò, anche se non vorrò, perché mi parla di voi. Tu lo sai che penso a te, rivedo te, sentendo questo tango, il tango che ballavo, felice insieme a te. Io ripenso al nostro amore, adesso tu non sei più qui e so che non ritornerai, ma questo tango ti terrà legato a me. Che tu, sentendo questo tango, non puoi scordare i giorni trascorsi insieme a me.
Non ti capisco, hai tutto quello che vuoi, io non so che cosa cerchi, io non so che vuoi di più, la vita ti ha dato troppo e per questo tu non puoi. Che tu non vedi mai, perché tu non guardi il mondo con la mia semplicità. Guardando intorno a te, tu forse capirai che quello che ti manca è lì vicino a te. Guardando intorno a te, nel mondo troverai le cose che tu cerchi, ma che possiedi già. Ci sono piccole cose che tu non vedi, però sono proprio queste cose che dovrai cercare tu. Un bimbo che ti sorride, la natura che ti dà boschi e prati e mille fiori, luci, colori e gioia. Tu sei triste ma non sai che la vita è molto bella se la guardi come me. Guardando intorno a te nel mondo troverai le cose che tu cerchi, ma che possiedi già. Non potrai più suonare, adesso sei solo. C'era un vecchio cantante. Poche lire d'un sorriso lo rendevano felice. Qui la gente gli era amica e mai più lo scorderà. Bandoneon, non potrai più suonare, adesso sei solo. Bandoneon, il tuo vecchio padrone mai più tornerà. Se incontrava dei bambini, inventava delle fiabe e per loro le cantava con il suono del bandoneon. Caro vecchio cantastorie, hai lasciato un grande vuoto nelle piazze dei paesi dove tu non tornerai. Quando ne ho il tuo vecchio padrone mai più tornerà. La mia vita comprendo che ho sbagliato e che passando la mia vita insieme a voi c'è solo buio intorno a me. Vi lascio e non torno più. La mia vita cambierà. Un mondo nuovo troverò. Tempo e la serenità. voglio restare più.
Voilà, alors chères auditrices, j'ai pris la décision de ne pas vous faire écouter le passage de l'interview qui est vraiment très difficilement écoutable à cause du ralentissement du rythme de parole de Moufida Tatli dû au mauvais fonctionnement de mon enregistreur. Je pense que je vais essayer de vous raconter ce qu'elle m'a dit et ensuite je vous passerai la suite de notre entretien. Mais tout de suite, je vous mets un peu dans l'atmosphère du film et je vous raconte un petit peu l'histoire. Alia n'en peut plus à 25 ans de chanter dans les mariages. Après une énième humiliation, elle exprime le dégoût de sa vie et une révolte contre Loti, son compagnon qui partage sa vie depuis 10 ans et qui ne l'a jamais épousée. Elle apprend par lui la mort du prince Sidali, un ex-bey, un ex-roi de la Tunisie avant l'indépendance, et cela la replonge brutalement dans son passé. Alors elle retourne au palais à l'occasion des obsèques. Elle revisite ce palais de son enfance où elle est née, d'une mère servante et d'un père inconnu, mais dont on comprend bien qu'il pourrait bien être le prince Sidali qui vient de mourir. En déambulant dans les couloirs déserts du palais, lui reviennent petit à petit toutes les images, fascinantes mais très cruelles, qui furent celles de son enfance. Elle revoit son amitié interdite avec Sarah, la fille d'un des princes. Elle revit sa quête du père dans un silence très douloureux qu'elle exprimait parfois par des cris ou des vocalises sauvages et désespérées, parce qu'Alia a découvert le chant, a découvert la musique. Elle exhume petit à petit tout au long du film ses souvenirs qu'elle pensait avoir enterrés avec sa mère, la brave et belle Kedja, qui meurt d'un avortement, qui luttait tout au long de sa vie en silence et avec acharnement pour protéger sa fille de la convoitise de ses princes, pour que sa fille échappe à jamais au sort qu'elle avait subi depuis sa toute petite enfance, puisque Kedja, la mère, a été vendue au prince Obey alors qu'elle avait 10 ans et elle n'a connu que la cuisine, que le rez-de-chaussée du palais pour toute son existence. Elle n'en est jamais sortie, comme toutes les femmes qui travaillent avec elle à la cuisine et qui servent les princes qui sont à l'étage. Elles sont bien sûr corvéables à merci, non seulement dans toutes les tâches quotidiennes, de la cuisine, de la lessive, du nettoyage, mais la satisfaction aussi de tous les désirs sexuels des princes et de tous leurs caprices. Et bien sûr, dans ces conditions, il n'est pas rare que des enfants naissent. Et Alia, nous le devinons très vite, est bien sûr la fille du prince Sidali qui vient de mourir. Moufida Tatli dit ceci de son film. « Mon film a pour héroïne une femme, une colonisée du colonisé, inférieure par naissance, femme pour servir l'homme. » Fille d'une des servantes du palais des Beys, les derniers rois de Tunisie, Alia est le fruit de ce qui subsistait alors, le droit de cuissage des princes. Toute l'histoire se résume dans une quête douloureuse de son père dans le huis clos du palais. À travers ce récit, c'est le destin des femmes du monde arabe que j'ai voulu aborder. Et Moufida Tatli a trouvé pour comme fil conducteur qui tisse petit à petit son film un élément magnifique, c'est la musique. Et la voix sublime d'Alia va en effet constituer pour elle l'unique chance de salut. Et c'est un autre bénéfice du film que ce voyage qu'il propose dans l'art du chant arabe, soutenu par le luth principalement, les tambourins, et parfois les mélopées d'Oum Kalsoum transmises par la radio. Et c'est celle que vous entendez en ce moment, Oum Kalsoum, très jeune. La bande sonore du film de Moufida Tatli, Les Silences du Palais, qui, je vous rappelle, est montrée en ce moment au cinéma Rialto à Genève, eh bien, est ponctuée des chansons d'Oum Kalsoum, des chansons d'Alia, de musique, que d'abord la fille du prince apprend, Sarah qui apprend à jouer aux luttes, et puis petit à petit Alia va s'y mettre. Elle n'a pas le droit de toucher à l'instrument de son amie, mais celle-ci le lui prête quand même de temps en temps en cachette. Et puis, pour finir, la mère d'Alia va se saigner avec une de ses amies de la cuisine pour offrir un luth à sa fille. Et on peut imaginer l'extrême bonheur d'Alia à ce moment-là. Mais il y a aussi bien d'autres moments de musique dans ce film, entre autres l'atmosphère des femmes qui chantent en travaillant. Et nous le retrouverons tout à l'heure pour ponctuer un petit peu notre rencontre avec Moufida Tatli. Alors, j'avais demandé à Moufida Tatli une première question. Je vais poser une première question. Je lui demandais comment se faisait-elle qu'elle avait choisi de situer son film dans les années 50, puisque les baies, le palais des baies, le rôle des baies, ces seigneurs, c'est ceux qui ont régné jusqu'aux années 50, à la veille de l'indépendance de la Tunisie, à ce moment-là sous colonisation française. Et ils disparaîtront de la carte du pouvoir tunisien au moment de l'indépendance. Alors, pourquoi avoir choisi de placer son film à ce moment-là ? Dans ce rapport donc très grave de maître à servante, parce que je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose de très intéressant, c'était le rapport entre les femmes elles-mêmes, mais il est évident que ce rapport de maître à servante s'impose dans un premier temps. Alors Moufida Tatli m'a répondu que si cette époque en fait s'est imposée à elle, pour la raison suivante, c'est qu'elle voulait raconter absolument l'évolution de la femme tunisienne. La femme tunisienne qui, dans les années 50, vit une vie qui ressemble à celle que les femmes tunisiennes ont vécue depuis des millénaires, celle d'une soumission totale à l'homme. Et puis, il y a cette année charnière qui est l'année de l'indépendance de la Tunisie, où tout à coup le statut de la femme va changer profondément. Elle va obtenir des droits qui vont la protéger, comme par exemple l'interdiction de la polygamie, l'obligation de l'alphabétisation des femmes. Et très vite, des mesures prises pour la contraception. Et bien sûr, tout un programme social, médical, pour arriver à faire comprendre ces éléments aux femmes. Et puis, il y a cette troisième époque, eh bien, qui est l'après-loi, après toutes ces lois. Alors, un certain nombre de questions se posaient très personnellement à Moufida Tatli, comme par exemple, est-ce que les femmes ont pu profiter de ces lois ? Est-ce qu'elles étaient mûres pour en profiter de ce que tout à coup ces lois leur proposaient ? Après un certain nombre d'années, une trentaine d'années, quel bilan pouvons-nous faire de l'application, de l'utilisation de ces lois ? Que sont devenues les femmes ? Si elles ont si bien pu profiter des lois, alors est-ce qu'elles sont aujourd'hui libres ? Est-ce qu'elles peuvent vivre le destin qu'elles désirent ? Est-ce qu'elles peuvent choisir ce qu'elles veulent devenir ? Toutes ces questions très personnelles que se posait Moufida Tatli, et elle a décidé de réaliser ce film pour essayer d'y répondre. Moufida Tatli était d'abord monteuse, et à un moment donné, elle a eu envie de décider elle-même de ce qu'elle voulait mettre dans ses films. Pourquoi le palais ? Le palais aussi très symbolique dans ce film, le palais des baies, c'est qu'il est significatif à outrance dans l'extrême de l'enfermement des femmes. Des femmes qui vivent recluses à la cuisine, à l'étage, toute la journée, qui n'en sont jamais sorties, qui n'en sortiront jamais. C'est l'homme, même un des maris, le mari d'une des femmes domestiques, qui va faire les commissions à l'extérieur, mais les femmes ne sortent jamais, elles ne verront jamais personne. Et comme la mère d'Alia, elle est là depuis sa tendre enfance, puisqu'elle a été vendue par sa famille au BEM. Mais en fait, toutes les femmes sont soumises à cette dure tradition de la soumission, du silence, des tabous, des non-dits. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'on découvre aussi bien les femmes qui travaillent, corvéable à merci, les servantes, au rez-de-chaussée et à la cuisine. Mais bien sûr, on rencontre parfois les femmes de l'étage, les femmes des seigneurs, les princesses. Et on est un peu surprise de constater qu'elles n'ont pas l'air beaucoup plus heureuses que les femmes de la cuisine. Parce qu'elles subissent en fait le même rapport, la tradition est tout aussi forte pour elles. Oh, bien sûr, elles sortiront quand même quelquefois du palais, elles iront à des mariages, à des invitations auxquelles les maris les entraîneront. Mais en fait, elles subissent aussi l'isolement, la solitude. Elles ne parlent pas avec leur mari, elles ne parlent pas entre elles. Et tous ces tabous, ces silences, ces non-dits les enferment elles aussi. Mais bien sûr que la situation des servantes est beaucoup plus douloureuse à cause de toutes les servitudes dont elles sont l'objet, et servitudes qui ne sont pas seulement un travail épouvantablement lourd et pénible, mais aussi cette servitude morale de savoir qu'elles sont moins que rien, puisque le maître peut faire d'elles ce qu'elles veulent, et bien sûr les entraîner dans les moindres de leurs caprices. Il y a quelque chose de très frappant et qui est montré magnifiquement par Mufida Tatli dans son film, c'est justement ces rapports entre les femmes elles-mêmes. Et pour ce qui est des servantes, cette connivence qui fait qu'elles se retrouvent entre elles, qu'elles trouvent une force à être entre elles. Bien sûr, il y a, c'est pas toujours l'harmonie, il y a des affrontements, des jalousies, entre autres provoquées par les choix des maîtres, mais en fait, elles n'ont pas vraiment le choix. Cette connivence leur est quasiment imposée, cette solidarité leur est quasiment imposée, dans la mesure où elles n'ont pas le choix. Soit elles se tapent la tête contre les murs tellement elles vivent une situation épouvantable, soit elles font bloc contre celui qui leur impose sa domination. Et parce qu'elles savent très bien que ce qui leur arrive à elles peut très bien arriver à l'autre, ou l'inversement, ce qui arrive à l'autre peut très bien leur arriver à elles. Donc elles se tiennent les coudes, elles se soutiennent. Et par exemple, lorsque l'une d'entre elles est malade, toutes les autres sont solidaires. Lorsque, par exemple, un des princes attire la mère d'Alia et qu'elle ne supporte pas ce prince, elle le hait, mais elle ne peut pas dire non. Mais pourtant, très vite, une autre femme vient la remplacer auprès du prince parce qu'elle connaît ses problèmes, ses dégoûts, et elle la remplace. Et puis quand la mère d'Alia se retrouvera encore une fois enceinte, mais que parce que sa fille quelque part lui a ouvert les yeux sur sa situation, on va le comprendre tout de suite, eh bien elle ne voudra pas de cette deuxième grossesse. Entre elles vont s'aider pour essayer d'avorter. Malheureusement, la mère d'Alia mourra de son avortement, d'une hémorragie tragique. Et c'est cette mort qui va tellement provoquer la haine et la tristesse d'Alia qu'elle va s'enfuir en courant du palais et ne plus jamais y retourner. Alors, le rôle d'Alia est évidemment très important dans ce film. Alia, cette jeune femme que l'on découvre d'abord à 25 ans, qui chante, qui utilise sa voix, et qui, juste à la toute fin du film, elle rencontre un jeune instituteur qu'une des servantes cache parce qu'il est cherché par la police, parce qu'il est un de ses premiers partisans de l'indépendance. Et elle va le rencontrer, elle va être attirée par lui, et lui va essayer de lui donner confiance quant à sa voix, va essayer de l'attirer dehors. Mais lorsque finalement elle s'enfuira avec lui à la mort de sa mère, eh bien, elle se retrouvera quasiment dans la même situation que sa mère, parce que ce jeune homme ne voudra pas l'épouser, parce qu'elle est fille d'une servante, parce qu'on n'épouse pas une femme qui n'a pas un statut, entre guillemets, honnête, reconnu, et surtout pas lorsqu'on est chanteuse, parce que ce n'est pas un métier de reconnu, il faut être peut-être Oum Kalsoum pour arriver à se faire reconnaître et apprécier. Et alors, la jeune Alia chanteuse revient au palais, mais c'est en fait la jeune Alia adolescente que l'on va suivre tout au long du film. Et Alia va être un petit peu cette rupture, cette cassure dans le monde de toutes ces femmes. Et entre autres, elle va jouer un rôle fondamental dans la prise de conscience de sa mère. Sa mère va comprendre beaucoup de choses au travers du regard d'Alia, de sa fille. Et c'est là que, heureusement pour nous, l'enregistreur fonctionne à nouveau correctement et que nous avons pu comprendre ce que nous raconte Mufida Tatli. Alors tout de suite, Mufida Tatli.
Khadija, qui vivait sa vie tout en pleine soumission, s'est retrouvée un jour confrontée au regard de sa fille qui a commencé à grandir et qui a commencé à la juger, à voir quelle vie elle menait, cette femme qui est en même temps sa mère, qui est en même temps danseuse, qui est en même temps masseuse, qui en même temps passe sa nuit dans les lits des princes. Et c'est quelque chose qui a mis en révolte une jeune adolescente et la mère, qui n'était pas du tout consciente du drame de sa situation, de son statut, en prend conscience avec le regard juge de sa fille. Ce qui fait révolte de la fille, suivi de la révolte de la mère par rapport à sa propre situation, d'où le preuve, j'ai de la deuxième grossesse qu'elle a, qu'elle n'accepte pas, parce qu'en fait, elle sait que sa fille l'observe. Si sa fille n'avait pas été là, je crois qu'elle aurait assumé comme avant. Et toutes les femmes, les autres servantes aussi, ont conscience de ce petit bout de personnage, cette fille, qui les regarde, qui les observe, qui les juge. Et à partir de cet instant-là, il y a comme une sorte de prise de conscience chez chacune d'entre elles, différemment, évidemment. Chacune a un petit destin quand même un petit peu différent. Et c'est ça qui fait toute cette transformation à partir du moment où elle a grandi dans le milieu des servantes.